Salut les frères et les sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Le message que je vais vous traduire ce soir, c'est vraiment important. C'est quand même la continuation du message à propos du ravissement. Et en particulier, c'est focalisé sur les fausses doctrines à propos du ravissement selon les Écritures. Donc, j'irai vous donner toutes les références que Frère Joseph a données. Donc, prenez papier et stylo, car les références sont beaucoup. Et car, comme vous savez, comme Joseph nous enseigne toujours, justement, la manière la plus efficace pour confirmer ou pas les Écritures, c'est le faire à travers les Écritures même. Donc, c'est cela que je vais vous faire. J'ai tâché de diviser ce message en six parties. Donc, seront six, disons, les doctrines sur lesquelles nous focaliserons l'attention ce soir. Donc, la première, c'est prise à partir d'un pas de la Bible, qui c'est Apocalypse 3, 10. Je vais vous lire la référence. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. À partir de cela, il y a des personnes qui disent que le ravissement, c'est donc avant la tribulation. Quand ici dit comme tu as persévéré, tu seras gardé de l'heure de la tentation qui va venir. En réalité, si on lit seulement ce verset, si on lit ce verset, on n'a pas une compréhension complète de ce qu'est le contexte aussi de cette écriture, car en réalité c'est une prophétie donnée à l'église de Philadelphie et qui regarde la persécution des chrétiens. Oui, c'est vrai, mais de la partie des Romains. Donc n'a rien à quoi voir avec le ravissement. Cela parle de la persécution que les chrétiens ont vécu pendant l'Empire romain. Et donc, c'était une prophétie donnée pour cela. Quand même, l'autre partie sur laquelle on doit focaliser l'attention, toujours en ce qui concerne cette écriture, c'est que ici, le ravissement, si on interprète de façon trompée ce pas, semble être un prix pour la persévérance, comme il y a écrit, non? En réalité, si on lit bien les Écritures, on voit que cela n'est pas le prix. Donc, le salut. Ce n'est pas un prix, je veux dire. Ici, il semble que, ah bon, Jésus arrive, nous ravisse, et donc cela, c'est le prix. Non. Et à partir de cela, il y a quand même des fausses interprétations à propos du salut et du prix des bénédictions dues après le salut. Donc, on doit dire que. Pardon. On ne doit pas confondre le salut et les prix. Le salut, c'est seulement pour grâce. Tandis que le prix est donné à chacun de nous selon les œuvres qu'il fait. Donc, quand même, tous les chrétiens sont sauvés. Mais il y aura des chrétiens qui n'auront plus de bénédictions par rapport à d'autres chrétiens, à cause de leur fidélité, de leurs œuvres, de les fruits qu'ils ont fait pendant leur vie. Cela, c'est pas que je l'invente, mais comme l'a dit Frère Joseph, c'est écrit et spécifié en Apocalypse 22, 11 et 12, que je vais vous lire. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui a souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que c'est son œuvre. Et donc, je pense que ce soit très clair. Donc, le ravissement, ce n'est pas un prix et ce n'est pas le salut. C'est seulement, comme on avait dit dans la registration avant, c'est seulement le fait de se présenter devant le tribunal pour être jugé pour nos œuvres. C'est après la tribulation, comme on a déjà démontré, comme on va démontrer encore. Et le salut, c'est seulement par grâce. Donc, le fait de recevoir le salut, c'est parce que Jésus est allé sur la croix pour nos péchés. Et cela, c'est la grâce. Le prix, cela sera selon les fruits, les œuvres que nous ferons pendant la vie. En effet, si on lit au livre des Galates, au chapitre 5, vers 4, et aussi dans la deuxième épître des Corinthiens, au chapitre 6, le vers 1, on voit qu'en effet, le prix ne peut pas être pour grâce, du moment que, avec le péché, on peut perdre la grâce. En effet, je lis avant tout Galates 5, 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous êtes déchus de la grâce, ici, on lit. Tandis que en Corinthiens, 2 Corinthiens 6, 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire, bien, on reçoit la grâce, mais si on n'a pas une conduite correcte, on peut aussi sortir de la grâce, on peut déchuer de la grâce. Après cela, donc pour ne pas tomber dans l'erreur de dire le salut c'est pour grâce, donc mes œuvres ne comptent pas. Non, parce que plusieurs et plusieurs fois à l'intérieur des Écritures, il y a répété que Dieu, que Jésus regarde à nos œuvres. Un exemple parmi beaucoup, c'est en Apocalypse 3, au vers 8. Cela, c'est l'épître écrite à l'église de Sardes. En effet, au vers 3, 8, le début du vers, c'est « Je connais tes œuvres ». Donc, à partir de cela, déjà, on voit que Jésus, Dieu, regarde aux œuvres qu'on fait. Quand même, si on ne fait pas d'œuvres, on est sauvé si on croit en Jésus, car croire être baptisé dans l'Esprit, comme on a déjà dit dans une précédente registration à propos du salut, c'est une condition nécessaire et suffisante pour être sauvé. Mais quand même, la rétribution sera différente selon les œuvres qu'on fait ou bien qu'on ne fait pas. Donc, c'est cela aussi la différence parmi les chrétiens qui auront la couronne de victoire et les chrétiens qui, au contraire, comme il y a écrit aussi en Daniel 12, 3, comme on a déjà dit précédemment, sont condamnés, entre guillemets, qui sont quand même sauvés, mais sont condamnés, entre guillemets, à la honte éternelle, c'est-à-dire qui seront dans une condition de toutes sortes semblables à celle des vierges sans huile. C'est cela. Donc, ce n'est pas vrai que le prix et la bénédiction et les bénédictions sont pour grâce, sont données par grâce, mais pour les œuvres. La seule chose, disons, qui est donnée par grâce, c'est le salut. Un autre aspect très important, c'est celui qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah bon, mais Jésus nous protège, donc Jésus ne nous fait pas passer la tribulation, car il nous garde de cela. En réalité, Jésus n'est pas que nous protège de la tribulation, mais Jésus nous protège à travers la tribulation, c'est-à-dire que Jésus permet la tribulation pour nous sauver. C'est la même chose qu'on voit si on veut prendre un exemple pratique. En Daniel, quand les trois amis de Daniel sont jetés dans le feu, ou quand Daniel lui-même est jeté avec les lions. C'est pas que Dieu l'a gardé, a gardé Daniel des lions, ou que Dieu a gardé les amis de Daniel du feu. C'est qu'à travers cette expérience, il les a protégés, il les a gardés, il a fait quelque chose qui c'était pour leur salut. Mais en réalité, ils ont passé tout cela. Et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que la protection que Dieu nous donne, que Jésus nous donne, ne signifie pas que on ne mourra pas pour Jésus, pour Dieu. Non, nous pouvons aussi mourir. Disons, nos corps peuvent mourir. Mais ce qui Dieu protège, ce qui notre foi protège, ce qui Jésus protège en réalité, c'est l'âme. En effet, il est écrit en Matthieu 10 on doit avoir peur de ce qui peut tuer nos âmes et nos corps, non pas seulement de celui qui peut faire mourir nos corps, car ce qui importe, c'est le salut de l'âme, de l'esprit. Et donc, à partir de cela, on a vu comme en réalité, c'est une fausse doctrine, celle de dire, ah non, l'Église ne passera pas la tribulation. Non, ce n'est pas comme ça. Et en effet, il y a eu, si on lit la Bible, plein de persécutions envers les chrétiennes, envers les fils de Dieu. Mais quelqu'un est mort, quelqu'un non. Mais quand même, il y a été beaucoup de chrétiens, beaucoup de fils de Dieu qui ont été persécutés pendant l'histoire. Et ça suffit de lire la Bible pour le voir. Un autre point important, c'est que en réalité, on peut éviter, entre guillemets, la persécution si on est digne, comme on le lit en Luc 21, 34 et 36. En outre, comme on le lit aussi en Apocalypse 12, les vers de 16 à de 6, pardon, à 14. Le Seigneur nous protège à travers l'esprit, c'est-à-dire protège nos âmes à travers l'esprit. Et pour faire cela, peut permettre les persécutions, peut permettra la tribulation, permettra la marque de la bête, tout cela. Donc, ce n'est pas vrai que le fait de passer la tribulation, c'est ah non, Jésus ne nous protège pas, donc c'est en contradiction par rapport à ce qu'on a lu avant. Non. C'est vraiment à travers cela qui nous pourrons avoir le salut, nous pourrons sauver, nous aurons la possibilité de sauver nos âmes. Et en effet, pour confirmer encore une fois tout cela, Frère Joseph citait l'Écriture en Actes des Apôtres 14, 22, qui dit, attendez, la deuxième partie, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici aussi, dans ce pas, on voit que la tribulation, la persécution, les souffrances, les épreuves, les difficultés sont une condition nécessaire pour monder nos esprits, pour sauver nos âmes. Et c'est pour cela qu'on voit en 1 Thessaloniciens 3, les vers 3 et 4, qu'il y a écrit afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, comme vous le savez. Et donc, nous le savons du principe que, en suivant cette route, qui c'est une route vraiment difficile, mais qui nous donne le salut, qui nous donne beaucoup de prix selon nos œuvres et de bénédictions selon nos œuvres toujours, nous savons. Du moment qu'on choisit que nous choisissons de faire cette parcours, qu'il y aura des tribulations, des difficultés, des persécutions, que probablement nous serons persécutés, peut-être qu'on nous coupera la tête, et bon, nous le savons du principe. Mais quand même, nous avons la protection de Dieu et de Christ, donc nous ne devons pas avoir de peur. Car quand même, quand sera le moment, quand la tribulation sera présente, quand il y aura la persécution, sera l'Esprit à parler à notre place et non pas nous. Pour confirmer encore une fois et pour conclure ce premier point, à propos du ravissement et donc l'Église passera ou non la tribulation. Si on lit en Jean 16, le vers 33, il y a écrit: Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, ici c'est quand même écrit, c'est Jésus qui le dit. J'ai vaincu le monde, mais quand même vous aurez des tribulations. N'avez pas de n'ayez pas de peur. J'ai vaincu, donc vous aurez la victoire en moi, mais quand même il y aura des tribulations. Cela, c'était le premier point. Donc l'Église passe ou ne passe pas la tribulation. Le deuxième point, la deuxième fausse doctrine, disons, que Frère Joseph a exposé, c'est à partir d'une écriture en Matthieu, en particulier Matthieu 24, 37, qui dit: Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, moi ici, je l'ai divisé. En réalité, c'est une continuation de l'histoire du ravissement, du fait qu'il y a écrit que le jour du Seigneur arrivera comme un voleur et donc pas tout le monde que personne ne le sait pas quand il arrive, donc on doit être prête. Donc en réalité, c'est un peu différent ce qu'ici veut dire. Alors, comme on voit en Genèse, au chapitre 6, vers 3, mais aussi au chapitre 7, vers 4. Oui, aussi quand il y a été l'épisode de Noé, les gens, il y avait des gens qui mangeaient, buvaient, se mariaient, etc., etc. Mais ceci, c'était les personnes qui n'avaient pas de foi, qui ne croyaient pas ce que Dieu disait à travers Noé. Donc, la réalité, c'est que comme au temps de Noé, il y avait des personnes, même des personnes qui croyaient en Dieu, qui n'écoutaient pas la voix de Dieu et qui n'ont pas cru à ce que Dieu disait à travers Noé, donc la catastrophe c'était imminente, il y aura aussi. Pendant la tribulation, des personnes, des chrétiennes, des personnes qui ne croient pas, qui ne seront pas prêtes, qui seront complètement dans l'obscurité, et que pour cette raison, n'auront pas la possibilité de comprendre les signes des temps et donc ne pourront pas comprendre quand le Seigneur va retourner. Mais en réalité, il y aura aussi des personnes comme Noé qui comprendront parfaitement cela parce qu'ils seront à même d'entendre la voix de Dieu, de comprendre la parole de Dieu et qui seront soumis à la volonté de Dieu. Donc, il y aura des personnes comme Noé, des vrais chrétiens, des fidèles comme Noé a été, qui sauront quand le jour du Seigneur arrivera. Mais il y aura quand même des chrétiens qui ne sont pas fidèles, qui n'ont pas donné tout leur cœur à Dieu, à Jésus, qui ne servent pas Dieu en esprit et en vérité, qui sont complètement dans l'obscurité. Et avec eux, il y aura quand même tous ceux qui ne croient pas, les athées et ceux qui ne croient pas, donc qui n'ont pas donné leur vie à Dieu, à Jésus, et qui ne seront pas à même de comprendre les signes des temps et de comprendre quand le Seigneur retournera. Et donc c'est pour ces personnes que le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. En effet, si on lit le chapitre en général de Matthieu 24, on voit que c'est pour ces chrétiens qui ne croient pas et qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui font de quelque manière, oui, c'est quand même pour ceux qui ne croient pas, mais c'est aussi pour tous les chrétiens qui ne croient pas et qui n'obéissent pas à la voix de Dieu, qui font tout le contraire de cette manière, de quelque manière, disait Frère Joseph, de ce qu'il y a écrit en Proverbe 22, 3, que maintenant je vais vous lire. Attendez, Proverbe 22, 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais le simple avance et sont punis. Donc, c'est pour ces hommes qui sont simples, qui avancent sans s'arrêter, qui le jour du Seigneur sera quelque chose d'inattendu. Et comme il y a toujours écrit en Daniel au chapitre 12, les vers 4 et le vers 10, seront les personnes, les mauvaises personnes qui ne comprendront pas cela. En effet, au vers 4, on voit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Et la connaissance augmentera. Le 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc, c'est pour les méchants, pour les mauvaises personnes, pour ceux qui ne croient pas, pour les chrétiens qui ne sont pas fidèles, que sera un événement quand même inattendu. Et en effet, cela, on le lit aussi, on a la confirme de cela aussi dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le vers 27-28, dans lequel on dit, mais vous ne croyez, non, attendez, pardon, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de moi-même. Donc, ceux qui connaîtront exactement le moment seront seulement les brebis, ceux qui suivent la voix de Dieu, ceux qui entendent la voix de Dieu, ceux qui se donnent complètement à Dieu, quand même. Et cela était le deuxième point fondamental. La troisième fausse doctrine dont on va parler maintenant, disons troisième, mais quand même tout ce que je suis en train de dire, c'est quand même partie d'un unique message. Moi, j'ai pensé de diviser de cette façon le message de Frère Joseph pour afin que soit plus simple aussi pour moi de le traduire, car quand même c'est quelque chose de vraiment profond et vraiment compliqué d'un certain point de vue. Mais en réalité, c'est un message unique. En effet, le troisième point, c'est la fausse doctrine du ravissement secret, car il y a beaucoup de personnes qui disent: ah non, il y aura un ravissement secret, donc personne ne sait rien, bon, ça suffit. Non, en réalité, je suis en train toujours de traduire la partie qui se réfère au ravissement. Donc, il y a des personnes qui disent qu'il y aura un ravissement secret. En réalité, ces personnes peuvent dire, dit Frère Joseph, ce qu'ils veulent, mais la Bible ne dit pas cela. Dans la Bible, il n'y a pas écrit rien de cela. Donc, cela peut être une interprétation personnelle, cela peut être une pensée de quelqu'un, mais quand même, on ne peut pas fonder des doctrines sur des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et en effet, comme on lit en Jean 15 et dans les psaumes au chapitre 25, vers 14 aussi, tout ce qui a été révélé par Dieu est écrit. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas écrit, c'est quelque chose qui a ajouté l'homme, mais qui n'a pas dit Dieu. Donc, comme la Bible ne parle pas d'un ravissement secret, on ne peut pas fonder une doctrine, pardon, d'un ravissement secret, qu'en réalité n'est pas mentionné dans la Bible. À confirmer de cela, à confirmer cela, il y a un verse de Matthieu, beaucoup de vers. En réalité, maintenant je vais vous lire Matthieu 24, de 25 jusqu'à 30. Pardon, Matthieu 24, 24, 30. Pardon. Donc, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et je souligne toutes les tribus de la terre. Donc, il n'y aura pas une personne, néanmoins une seule personne qui ne le verra pas. Tout le monde le verra, chaque yeux le verra. Et donc, on ne peut pas dire que le retour de Jésus sera quelque chose de secret, qui personne ne sait pas. Car chaque yeux le verra, car toutes les tribus de la terre le verront. Et en effet, cela est aussi confirmé en Apocalypse, au chapitre 1, oui, chapitre 1, le vers 7. Voici, ils viennent avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Vraiment, merci. Dieu, merci, Jésus. En effet, ici, on voit aussi que même ceux qui l'ont percé le pourront voir. Donc vraiment, sera quelque chose que sera évident, sera et sera évident pour tout le monde, pour tous. Donc on ne peut pas dire qu'il y aura un ravissement secret, car comme il n'y a pas écrit qu'il y a un ravissement secret, il y a au contraire écrit que chaque œil le verra. Donc cela est même en contraste avec ce que il a écrit dans la Bible. Ça peut être une déduction, ça peut être une interprétation, mais en réalité c'est quelque chose qui va contre ce qu'il y a écrit, car comme on a vu en Matthieu 24, les vers 24 jusqu'à 30, et en Apocalypse 1, 7, et il y a aussi d'autres références, et il y a plein de références à propos de cela, ça sera quelque chose qui tout le monde verra. Et cela, c'était le troisième point. Le quatrième point qui se relie un peu au discours du fait que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, disons. Cela, c'est une doctrine qui a été fondée, disons, à partir d'un vers qu'il y a en 1 Thessaloniciens 5, c'est le vers 2, deuxième vers, dans lequel, en effet, il y a écrit: car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et donc cela semble être, si on lit seulement ce tout petit vers-là, semble en effet que personne ne peut pas savoir, car sera quelque chose d'inattendu. En réalité, disait frère Joseph, et cela c'est vraiment fondamental à mon avis, si on lit aussi les vers successifs jusqu'au 9, on voit que cela n'est pas vraiment cohérent avec l'interprétation qu'on peut donner si on lit seulement le vers 2. Car si on lit jusqu'au 9, on lit: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'envirent, s'envirent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis il continue. Quand même, c'est vraiment clair que celle-là, c'est une fausse doctrine, car ça suffit de lire deux vers après: mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, déjà ici, il le dit clairement. Si on est fidèle et on suit la voie de Dieu, on se soumet à la voie de Dieu, le jour du Seigneur ne nous surprendra pas comme un voleur. Et puis, le dit encore. Ne dormons donc point comme les autres, donc comme les autres chrétiens qui dorment et qui ne se rendent pas compte des signes des temps, mais veillons et soyons sobres. Donc cela, c'est vraiment clair, comme le disait frère Joseph. En plus, toujours en faisant comme frère Joseph nous a dit toujours, non? Donc, chercher des confirmes des Écritures dans l'Écriture même. Si on voit en effet Apocalypse 3, 1 jusqu'à 3, il y a dit exactement la même chose. Voici ce que dit à celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles: je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et reprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne veilles pas, je répète, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Mais ce qui est dit avant, c'est fondamental. Si tu ne veilles pas, Donc, si tu n'es pas un chrétien qui veille, qui écoute la voix de Dieu, alors c'est-à-dire Jésus viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais comme on est fille de la lumière, donc nous vivons dans le jour, nous ne pouvons pas nous le comprendre pas. Et cela s'est confirmé aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, les vers 45-46. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'en virer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera de sa part avec les infidèles. Donc, cela dépend de la conduite du serviteur. Car si le serviteur a une conduite mauvaise, alors le maître viendra comme, entre guillemets, un voleur, quand il ne se l'attend pas. Et donc, c'est toujours une autre écriture dans l'évangile de Luc qui va quand même confirmer ce qu'on a dit jusqu'à présent. Toujours à propos de la tribulation, et cela c'est le point numéro 5, on voit en premier Thessaloniciens chapitre 5, le vers 9, qu'il y a un vers dans lequel semble être écrit, si on le prend tout seul sans regarder le reste, que nous ne passerons pas la tribulation. En effet, si on lit le vers 9, dit, donc je suis en 1 Thessaloniciens 5, 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on lit cela, semble que Dieu ne veut pas que nous passions sa colère, mais en réalité, la colère ici dit, ne dit pas la colère de Dieu ou notre typologie de colère, non, cela dit seulement, nous n'a pas destiné à la colère. En réalité, cette écriture ne va pas interpréter de cette sorte, car la tribulation n'est pas la colère de Dieu. La tribulation, c'est la colère du diable. Cela est confirmé en Apocalypse, au chapitre 12, le vers de 12 à 14. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, et ici on parle de l'église, où elle se nourrit un temps des temps et la moitié d'un temps, et cela, c'est un temps des temps, la moitié d'un temps, c'est les 3 années et demie de la tribulation, loin de la force du serpent. Donc ici, c'est spécifié que c'est la colère du diable, donc les 3 années et demie, un temps des temps et la moitié d'un temps. De colère, de tribulation ne sont pas la colère de Dieu, car la colère de Dieu arrive après la tribulation, après le ravissement, quand Jésus est, quand même les élus ont été préservés, ont été gardés, et donc il y aura la colère de Dieu qui sera renversée sous tout le reste du monde qui y aura, mais pas sur les élus. Donc, cela. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas penser que le vers, l'écriture de 1 Thessaloniciens 5, 9 peut être interprété comme ah bon, l'Église ne pense pas à la tribulation. Non. Car la tribulation n'est pas la colère de Dieu dont on parle ici en réalité. Car quand même l'Église, les élus ne seront pas destinés à la colère de Dieu. Il y aura le ravissement, pour les préserver de la colère de Dieu qui se renversera sur tout le reste du monde. Mais cela, c'est la colère de Dieu. Tandis que la tribulation, c'est la colère du diable. Et donc, Dieu permettra la tribulation. Mais la tribulation, c'est pas donnée par Dieu. Non, la tribulation, c'est donnée par le diable. Dieu la permet, et bon, ça suffit. Et à confirme de cela, donc de la distinction qu'on doit faire entre rage de Dieu, la colère de Dieu et la tribulation, il a, frère Joseph disait de lire tous les chapitres d'Apocalypse du 15 jusqu'à 19. Donc 15, 16, 17, 18, 19 sont cinq chapitres dans lesquels on voit qu'on parle de la colère de Dieu. Et donc c'est cela qui fait référence à la colère de Dieu. En réalité, la tribulation n'a rien à voir avec cela. C'est la colère du diable. Et donc cela n'a rien à voir. La rage de Dieu, pour vous donner donc une référence déjà ici, après, si vous voulez, vous pouvez vous lire les chapitres de 15 à 19. Ça suffit de lire pour avoir une claire idée de ce que c'est la colère de Dieu, la rage de Dieu. Apocalypse 15, 1 et 2. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait sept flots, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et à partir, en effet, de ce chapitre, il y a les sept fléaux, de la colère de Dieu. Et je vis, cela c'est le 2, et je vis comme une mer de verre mêlée au feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc, ceux-là seront les chrétiens qui seront quand même gardés de tout cela, qui n'auront pas sur eux les conséquences de la colère de Dieu. Et cela donc, c'était le point numéro 5, disons. Le dernier point, c'est à propos de vers de toujours Matthieu 24, en particulier le vers 16 et le vers 21. Le vers 16 dit: à l'heure que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Le 21 dit: car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. À partir de cela, il y a quelqu'un qui dit que ces vers se réfèrent seulement aux Juifs, aux personnes de la Judée de l'époque. En réalité, cet extrait, c'est un desquels. Dans lesquels Jésus parle à travers les paraboles. Donc, bien, en effet, en plus, on doit penser que quand Jésus a dit cela, il y avait seulement ces Juifs, donc il ne pouvait pas parler à d'autres personnes. Mais quand même, si on l'interprète en tant que parabole, comme en fait est, c'est un message référé au peuple de Dieu. Donc, à tous les chrétiens, les chrétiens qui étaient liés, donc les juifs, ceux qui étaient liés à ce moment-là en Judée, mais aussi à ceux qui seront venus après, donc à ceux qui seront les 12 tribus des chrétiens, dont ceux qui en Romains 2, 28, 29 sont appelés les circoncis du cœur dans l'esprit. En effet, si on lit en Romains 2, 28, 28, 29, on lit: les Juifs, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non celle de la lettre. Le louage de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, c'est référé à tous les chrétiens, en général au peuple de Dieu, aux élus. Et on a une confirme de cela toujours en lisant un peu plus avant, en Matthieu, si on va du vers 21 qu'on a lu avant jusqu'au 31. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc cela se réfère à tous les chrétiens, à tous les élus qu'il y a sur toute la terre. Et donc c'est cela. C'est celui-ci le verre qui fait comprendre combien en réalité cette fausse doctrine de penser que ce message était seulement référé aux personnes qui étaient en Judée à ce moment-là quand Jésus a parlé, non, c'est faux. En réalité, c'est référé sans doute à eux, mais aussi à tous les chrétiennes, non, qui seront qu'il y aura aussi après ce moment-là. En effet, on le voit aussi écrit en Jacques au chapitre 1, où on voit quand même que, je veux dire, le fait que cela se réfère à tous les chrétiens, non aux 12 tribus, car il y a quelqu'un qui dit, ah non, les 12 tribus sont seulement ces particulières personnes, et à partir de cela, il y a toute une fausse interprétation de 144 000 qui sont seulement ceux qui appartiennent aux 12 tribus d'Israël. Non, cela c'est faux. Ici, en effet, on voit Jacques 1, 1. Jacques, serviteur de Dieu du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, cela veut dire à toutes les chrétiennes qui sont en dispersion sur la terre à ce moment-là, mais aussi à ceux qui seront dans la dispersion dans le futur, en effet, aussi aujourd'hui. Et donc, ce sont des tribus, disait Frère Joseph, spirituelles, non? Ces 12 tribus sont des tribus spirituelles, en effet, il disait. Enfin, Joseph disait, chaque chrétien appartient donc à une de ses tribus spirituelles. Et pour le comprendre, et cela c'était un peu la conclusion de ce message, ça suffit de le demander à Dieu. Donc, on a vu aucune parmi les plus entendues des fausses doctrines. Selon les Écritures, pardon. Donc, c'est celle du ravissement, si c'est avant ou après la tribulation. Non, nous avons dit que c'est après la tribulation. Nous avons dit qu'il n'y a pas un ravissement secret car chaque œil verra le retour du Seigneur. Nous avons dit que le ravissement sera quand même après la tribulation. Et se présenter pour les fils de Dieu, pour les élus devant le tribunal pour être jugés, sera quand même un moment dans lequel Jésus se retournera pour les élus, pour le ravissement, afin que la colère de Dieu qui se renversera sur le monde après le ravissement, afin que les élus ne porte pas sur eux les conséquences de cette colère de Dieu, mais que les conséquences les portent sur eux seulement ceux qui ont adoré la bête et ceux qui n'ont pas choisi Dieu et Jésus. Enfin, on a vu que donc le message de Matthieu 24, en particulier ce qu'il y a écrit à partir des vers 16 et 21, n'est pas référé seulement aux personnes de la Judée de cette époque, mais c'est référé en sens abstrait à tous les chrétiennes qui, on peut dire, font partie, comme le dit Jacques, aux 12 tribus, et donc à ces tribus spirituelles qui réunissent toutes les chrétiennes du monde. J'espère que ce message a été assez clair et que Dieu nous bénisse et bonne soirée à tous.